Même si ça se lit en diagonale, à la verticale, la tête en bas.
La tête en bas. Yahoo!
Et si ça se lit aux toilettes aussi.
Ouais, aussi.
Ben, c'est la routine. Un mardi sur deux. Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la bouquinerie. Vous pénétrez en ce moment même dans l'antre des bouquineux de Radio Campus Paris. Ici, on parle de tout ce qui possède de plus ou moins des pages, plus ou moins des mots, tout ce qui peut à peu près se lire. Enfin bref, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas très très stricts sur la forme. Docu-fiction, BD, dictionnaire, traduction, magazine de culturisme, notice de montage et bibliothèque de la Pléiade, on lit tout. Tout. Alors on a commencé par lire une recommandation de notre bénévolante ce soir. Salut Dania.
Salut Anna.
Quel livre est-ce que tu nous as apporté?
Alors moi je vous ai apporté un livre, un essai journalistique de Annick Cojan, une très très grande journaliste, un très grand reporter. C'est Les proies dans le harem de Gaddafi.
Et nous avons aussi lu Zora, un conte cruel de Philippe Arsenault, un sombre conte nordique paru aux éditions des Équateurs à la rentrée. Et nous en recevrons l'éditrice Jeanne Femme Tran en deuxième partie d'émission à 20h25. À 20h15, vous retrouvez la chronique adaptation de Simon. Salut.
Et salut Anna. Bah, ce soir, l'hiver approchant, on prend le train avec l'adaptation de la bande dessinée Le Transpersonnage par le cinéaste coréen Bong Joon-ho.
Tu le dis si bien. À 20h40, ce sera Martin qui vous traînera dans la bibliothèque de Christophe Ernaud, rocker et rédacteur en chef de la revue Schnock. Et à 20h50, enfin, ce sera au tour de Yacine de nous parler de dessin.
Salut Anna.
Salut. Ouais. Tu nous
parles. Alors, moi, je parle d'une BD qui s'appelle Kinderland, une BD qui se passe à Berlin-Est, avant la chute du mur.
Alors, un conte nordique particulièrement cruel, une enquête dans le harem d'un tyran. Ce soir, la bouquinerie risque de vous secouer un petit peu vos petites émotions et même peut-être vos petits estomacs et surtout vos grands esprits. Les proies dans le harem de Kadhafi, d'Annick Cojan, on en parle tout de suite avec Dania.
Et c'est la bouquinerie.
Il est 20h05, à peine, non même pas, il est 20h03, et nous abordons le premier ouvrage de la soirée, Les proies, dans le harem de Kadhafi d'Annick Cojan. Le grand reporter au Monde s'est rendu en Libye la veille de la chute de Kadhafi à la recherche des femmes. Des femmes actrices de la révolution, mais aussi des victimes du régime. C'est un livre dur, un livre vrai. Et Dania, pourquoi as-tu choisi de venir nous parler de ce bouquin ce soir?
Pour plein de raisons. Déjà, je l'ai lu, évidemment, il m'a bouleversée. Surtout pour aussi saluer le travail journalistique que moi je trouve immense de Annick Cojan, qui pour moi, dans ce domaine-là, dans ce métier-là, c'est l'excellence pour moi, Annick Cojan. Et surtout parce que je suis d'origine libyenne. Donc ce livre, je l'ai lu en Libye, je me suis procuré en Libye. Et cette histoire, vous le devinez sans doute, elle me touche particulièrement. Voilà.
Et alors,
ces histoires, je dirais.
Ces histoires, c'est ça, parce que l'ouvrage a une structure particulière. Mmh. Il y a d'un côté un témoignage et s'ensuit une enquête. Est-ce que c'est ce parallèle qui va donner encore plus d'impact et de puissance peut-être au bouquin?
Mais c'est ça, c'est qu'on voit déjà le travail d'Annick, dont je parlais, d'Annick Cojan, que je ne connais pas personnellement, Annick Cojan, un travail moi, que je trouve exemplaire, c'est-à-dire d'aller fouiller, d'aller... elle ne cherche pas le sensationnalisme, pardon, alors qu'elle l'a à portée de main. C'est quand même une histoire immense, enfin, c'est quand même très très grave ce qui s'est passé dans Bab al-Azizi, dans la maison de l'ancienne maison de Muammar al-Gaddafi. Pourtant, elle va aller chercher la vérité. Elle va être très minutieuse dans son enquête. Et c'est là où on voit le prix Albert-Londres de 1996. Et c'est pas un hasard qu'elle ait reçu ce prix-là. Et la partie du témoignage, c'est un témoignage dans ce qu'il a très cru, très difficile parfois à lire.
Mais à la fois pudique en fait. Parce
c'est
que
ça.
Il y a toujours la colère qui anime le témoignage, mais d'un côté peut-être encore le poids et de la douleur et de la honte que
c'est ça, parce qu'on parle de viol quasi quotidien de milliers de jeunes filles dans un pays où la virginité c'est un peu le fondement de la société. Il faut être vierge ou sinon vous êtes exclu de la société, et donc c'est le tabou des tabous. Ça, Annick Cojan en parle très très bien, et dans le témoignage de Soraya en particulier, c'est surtout Soraya qui nous a marqué et qui a marqué aussi Annick Cojan. On voit le poids d'avoir perdu sa virginité très tôt et de manière très très cruelle, et comment dire, la société qui la montre du doigt.
C'est Soraya, le premier narrateur du livre. Soraya, qui est donc une esclave sexuelle de Muammar Kadhafi.
C'est ça.
Est-ce que tu peux un petit peu brièvement raconter son histoire?
Rapidement, l'histoire de Soraya, c'est une jeune fille qui est juste allée à une fête de son école où était présent Muammar Kadhafi. On l'appelait tous Baba Marmor. C'est-à-dire que moi, ce qui me bouleverse énormément, et je ne pourrais pas ne pas être dans le sentiment, je m'en excuse, c'est parce que moi, je voyais, c'est dans la télé libyenne officielle, je voyais ces fêtes. Donc moi, je les voyais, ces jeunes filles, à la télé dans les années 90 et les débuts des années 2000. Et on ne se doutait pas de ce qui se passait, en fait. Ces jeunes filles, elles avaient l'air très contentes, elles offraient des cadeaux à Baba Marmor, elles lui chantaient des chansons, et lui, pendant ce temps-là, il repérait des jeunes filles. Les plus belles, les plus... Ben, peu importe, celles qui lui plaisaient. Et il est kidnappé, quelque part. Il est entouré de femmes, ces espèces d'Amazones qui sont là. Et dès qu'il fait signe, c'est celle-là. Il y a des femmes qui vont aller chercher ces jeunes filles chez leurs parents. Et qui vont... il va les utiliser pour assouvir ses fantasmes les plus dégueulasses, j'ai envie de dire.
Ouais. Et toi, tu as eu une approche particulière de l'ouvrage parce que tu l'as lu en Libye. Mmh. En tant que Libyenne, c'est particulièrement plus proche de toi. Mais en règle générale, comment est-ce qu'on ressort de ce livre? On ressort, c'est pas pour le sensationnalisme, tu l'as dit, qu'on y allait, c'est pour la vérité. Et qu'est-ce qu'on en...
Moi, j'en suis ressortie extrêmement bouleversée. Je vais juste préciser un truc, je suis dans une mission littéraire, je lis très peu. Malheureusement, j'ai des problèmes d'attention, donc j'ai du mal à garder mon attention. Lire, c'est quelque chose de très difficile et douloureux pour moi. Ce livre, j'ai lu en une après-midi. J'ai été happée par cette histoire, j'ai été bouleversée. Soraya, c'est peut-être un peu... On peut dire ça, mais ça aurait pu être moi, en fait. Ma sœur, ma cousine. Et ça, c'est très... Ça vous marque, vraiment. C'est quelque chose dont vous ressortez pas la minute après la lecture, mais 2-3 jours après la lecture, vous êtes encore en train de ressasser cette histoire-là. Et j'ai aussi vu la réaction des Libyens quand j'essayais d'en parler dans les réunions de famille. C'était quasiment impossible, on chuchotait. C'est-à-dire que je choisissais les cousines un peu plus ouvertes d'esprit que les autres. Et je leur dis, tu as entendu parler de ce livre qui est assez important, qui te montre ce qui se passait sous Kadhafi, cette usine à viol qui était ce régime. Et voilà, certaines disaient non, mais je ne connais pas. Ou certaines, on pouvait en parler, mais pas de manière ouverte. Quand Annick Cojouan dit, la presse libyenne s'est emparée de cette histoire, etc. On voit que c'est vrai, mais que c'est beaucoup plus difficile que ça et beaucoup plus compliqué que ça. Le tabou, il est immense. Et moi, parler de ce livre à une femme de 40 ans en Libye, c'est très très compliqué, même impossible.
On va vivre à travers le livre aussi la révolution et la, entre guillemets, libération, la mort de Kadhafi. À ce moment-là, Soraya sera revenue de France. Elle s'était exilée en France fuir.
C'est ça, elle s'est exilée en France.
Et finalement revient.
Et on voit qu'en France, elle a aussi subi une tentative de viol. Voilà, il n'y a pas des méchants, des gentils.
Mais c'est son fantôme qui la poursuit partout, voilà, en même temps. Et donc on va vivre la chute du régime en s'attendant presque, parce qu'après tout, c'est une narration, c'est un roman au début. À une happy end, ça y est, Kadhafi tombe, c'est fini.
Hourra !
Mais et non, le tabou est toujours là et le poids de
ce qui est important, et les révolutions arabes sont, moi, de manière très importante pour moi, la réflexion autour, c'est que ce qui s'est passé dans les révolutions arabes, c'est très important, mais il n'y a pas eu de transcendance. C'est-à-dire que les sociétés, elles ne se sont pas transcendées. Elles sont restées elles-mêmes, elles ont bousculé l'ordre établi, mais elles sont restées elles-mêmes. Les Libyens, ils sont restés extrêmement pudibonds, avec ou sans Kadhafi. Les Égyptiens, ils sont restés avec cette dualité entre le régime islamique, avec les frères musulmans, et l'armée. Les Tunisiens, entre l'islamisme et les Bourguibas, toute la descendance de Bourguiba. Et c'est ça qui est très important, ce qu'il faut comprendre. C'est pas du jour au lendemain, les Libyens sont devenus des gens ouverts d'esprit. Ce qu'on voit en ce moment en Libye, c'est bien sûr le contraire, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment... Malheureusement, un fiasco, cette révolution. Et on peut le deviner en lisant. C'est ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'on peut le deviner en lisant Annick Cojouan. C'est qu'on comprend que les Libyens, ils sont profondément marqués par ce que moi, j'appellerais un régime d'une vicieux, par une turpitude profonde. Et je crois qu'il y a besoin, quelque part, je ne suis pas une fan de psychanalyse, mais au-delà même de la situation politique, il y a besoin quasiment d'une psychanalyse générale, parce que moi, je pense sincèrement, je suis d'origine libyenne, je suis très fière de l'être, mais qu'il y a une névrose libyenne. Et je pense que Kadhafi, et ce qu'a fait subir Kadhafi, c'est qu'une humiliation nationale, parce que Kadhafi violait les filles, les garçons. Voilà. Oui. Je pense que c'est responsable de cette névrose que vivent les Libyens et qui a une... qui a eu des conséquences sur tous les secteurs de la vie politique, économique, humanitaire et humain, tout simplement.
Et pour, enfin, c'est pas changer de sujet, on reste toujours dans les bornes, mais c'est un livre écrit par des femmes, Annie Cojean et Soraya, c'est une traduction du témoignage de Soraya. C'est écrit par des femmes, sur les femmes. Est-ce que c'est pour aussi les femmes? Est-ce que tu penses que l'occidental, ça va évidemment lui parler à elle aussi, quelque part?
C'est-à-dire
que ça nous est adressé en tant que, dans une espèce d'idée de condition féminine internationale, même si c'est poussé à bout.
C'est ça.
Dans le régime de Kadhafi, il y a une condition féminine.
C'est ça, c'est que la femme, pour Kadhafi, est un sous-être. Qui est la femme et l'homme, parce qu'ils violent aussi des garçons. Et évidemment, c'est une situation qui est assez extrême. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas des Kadhafi à tous les coins de rue. Mais sa réflexion est très intéressante.
Heureusement,
ce serait problématique. Mais la réflexion qu'on peut faire autour de ce livre, c'est le rapport entre le pouvoir et la sexualité, par exemple. Qu'on voit, par exemple, ce qui se passait en Italie sous Berlusconi, on se dit, elle est où la différence? On n'est pas dans le viol, mais ça reste quelqu'un qui utilisait son pouvoir pour... il y a quand même eu des relations sexuelles avec des mineurs, présumés, etc. Donc moi, je pense qu'il y a une réflexion autour du pouvoir et de la sexualité. Il y a aussi une réflexion autour, comme tu le disais, autour de la réflexion de la femme. Et quand Soraya arrive en France et que l'ami de son père essaie de la violer, c'est comprendre que voilà, les femmes sont victimes de violences, quel que soit le côté de la Méditerranée où elles se trouvent. Et ça, c'est très important. Il faut garder ça en tête. Après, en tant que femme, pour dire honnêtement et concrètement, je suis allée beaucoup de fois en Libye. Je connais très bien la Libye de Kadhafi. Je connais très bien la Libye tout court et les sociétés traditionnelles et de tradition islamique. Je préfère largement être née en France. Il faut le reconnaître. Moi, je pense que c'est tellement hypocrite de ne pas le reconnaître. C'est universel, les violences faites aux femmes, mais je préfère, moi, être à Paris qu'être à Tripoli. Voilà, même si c'est bien plus compliqué que ça.
Et je peux te demander maintenant de nous lire un petit extrait pour qu'on se plonge complètement, que tu as choisi.
Je ne suis pas très originale, j'ai choisi la préface. J'en suis désolée, mais je trouve qu'elle témoigne bien du travail de Yannick, d'Annie Cojean et de ce que ça représentait pour elle, cette enquête. Le filet de voix s'est fait vacarme et le témoignage de Libyennes outragées recueillies à Tripoli dans le plus grand secret. L'hiver d'après la Révolution est devenu un livre vendu et commenté dans le monde entier. Aucune de nous, bien sûr, ne l'avait anticipé, ni la jeune Soraya, qui avait peine à imaginer comment le récit de son long calvaire dans le harem de Muammar el-Gaddafi pourrait être le point de départ d'un livre, ni la poignée d'autres femmes qui, surmontant leur terreur, m'avaient confié leur terrible secret en me suppliant d'oublier après notre rencontre leur nom et numéro de téléphone, ni moi enfin la journaliste bouleversée par leur histoire, leur sincérité, leur confiance, qui ressentait le devoir de porter haut et fort leurs paroles inaudibles en Libye, d'en faire un document incontesté, incontestable, dont se saisirait peut-être la Cour pénale internationale et que le nouveau pouvoir de Tripoli ne pourrait ignorer. Je vais m'arrêter là et je vais préciser qu'en juin 2014, donc après l'apparition de ce livre, le viol a été reconnu arme de guerre en Libye.
C'est
et ça, c'est nouveau. C'est une première et je pense que le travail d'Annie Cojean y a contribué et c'est à saluer, vraiment.
Je te remercie vraiment beaucoup, Dania. On écoute tout de suite un extrait d'un morceau que tu as voulu nous mettre dans les oreilles ce soir. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? We'll be right back.
but your eyes are staring at the ground. She makes a subtle proposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Here comes a Ford Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he didn't even have to say, oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. It does stop in the winter now. And they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out to town. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around. Man, just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Il est 20h17, vous êtes toujours à la bouquinerie et on écoutait à l'instant un morceau que Dania, notre bénévolante ce soir, a décidé de nous faire écouter. Qu'est-ce qu'on écoutait ?
On écoutait When the Sun Goes Down des Arctic Monkeys. Alors c'est une chanson qui parle, et ça a été écrit par le meilleur auteur, compositeur, interprète de sa génération, Alex Turner, qui parle de prostitution. Et ça montre ce que tu disais, Anna, dans ta question, c'est les violences faites aux femmes, c'est universel. Et là... je trouve qu'en écoutant ce qu'a écrit Alex Turner, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que la prostitution, que ce soit en Angleterre, à Sheffield ou que ce soit à Tripoli, c'est une violence faite aux femmes et une violence qu'il faut condamner.
Je te remercie, Dania. Vraiment, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce livre bouleversant, Les Proies.
J'aurais aimé en parler pendant une heure parce que je me rends compte qu'il y a tellement d'autres choses à dire dans le livre.
C'est tragique de la bouquinerie, oui, voilà. C'est ça. À chaque fois, on pourrait en parler des heures.
Merci beaucoup, Anna, en tout cas, pour ton invitation.
Ah, c'était un plaisir. Donc, Les Proies, d'Annick Cogent, je le rappelle. Tout de suite, on retrouve Simon pour sa chronique adaptation qu'on appelle Alors Simon, c'est pareil.
C'est
la bouquinerie.
Eh bien, après les viols en Libye, on va partir dans le froid, et pendant qu'on attend à Paris le froid, l'hiver, et qu'il arrive déjà à Westeros, je vous propose de plonger donc dans le terrible hiver de l'adaptation du Transpersonnage. Alors le Transpersonnage, c'est une sorte d'arche de Noé post-apocalyptique qui a commencé son périple dans une bande dessinée parue au début des années 80 et dessinée par Jean-Marc Rochette et scénarisée par Jacques Loeb. Alors assez vite, la BD a connu un succès retentissant, notamment grâce à son style graphique, son noir et blanc extrêmement puissant et son histoire typique des contre-utopies de ces années-là.
Mais de quoi ça parle plus précisément ?
Eh ben, c'est l'histoire d'un train qui fait chouchou dans la neige du futur.
Ah ! Et en vrai.
Bon, alors sérieusement, alors donc si tu veux du sérieux, enfile ta cagoule, tes pantoufles et tes gants, parce que vraiment tu vas avoir froid dans le dos, et on était déjà dans l'horrible avec Kadhafi, et ici on va encore plus dans l'horrible. Imaginez un futur proche, dans le film c'est 2014, les hommes n'ont pas trouvé d'autre moyen contre le réchauffement climatique que d'envoyer des grosses bombes avec du Kiss Cool et du Mentos dans l'atmosphère. Bon, ça c'est...
What a good idea.
Et ça marche tellement bien qu'une nouvelle ère glaciaire apparaît sur la Terre, et que les seuls survivants sont ceux qui ont réussi à embarquer dans une sorte de TGV high-tech qui tire son énergie de sa course perpétuelle autour du globe, le Transpersonnage. Alors il est divisé en classes dont le degré de luxe est proportionnel à la distance qui les rapproche de la locomotive, oui c'est très mathématique. Le train recompose ainsi une société capitaliste avec ses riches et ultra riches en tête de train et ses pauvres, voire ultra pauvres, en queue de train, d'où leur surnom de queutard. jusqu'à ce qu'un jour, un queutard du nom de Prolof, voilà, c'est très explicite, parvienne à pénétrer dans les wagons du milieu et remonter grâce à une pacifiste jusqu'à la locomotive où il rencontre Guillaume Pépi, qui va alors lui proposer de le remplacer, puisque, comme on le sait, les premiers seront les derniers, et que le car sera l'avenir du rail. Bref, pour résumer grossièrement les choses, le transpersonnage, c'est comme Sudrail, c'est le marxisme appliqué au chemin de fer de demain.
Mais l'adaptation, où elle en est, l'adaptation ?
Alors c'est justement, c'est très très intéressant, parce que le film sorti en 2013 du coréen Bong Joon-ho, qui nous a sorti The Host en 2006 et Mother en 2009, ne conserve que le concept d'origine pour développer une toute autre histoire. Et d'ailleurs, je voudrais demander à Yacine de me raconter une petite anecdote à ce propos.
Oui, oui, il y a une anecdote, c'est il y a un éditeur coréen qui a essayé donc de publier la BD en Corée, et donc ils ont contacté plusieurs fois Casterman, et Casterman, donc l'éditeur français, enfin belge plutôt, du transpersonnage, n'a jamais répondu, et donc le Coréen s'est dit, bah, c'est pas grave, on va se passer de l'autorisation de Casterman, on va la publier en Corée sans leur autorisation. Le bouquin est sorti donc en Corée, Bong Joon-ho l'a acheté dans une librairie, et on connaît la suite.
Et voilà. Justement, je reviendrai en conclusion sur cette anecdote.
Alors, et au final, ouais, oui.
Bah, comme je le disais, Bong Joon-ho décide de garder que la locomotive du transpersonnage, donc le concept d'une arche de Noé, pour développer une histoire qui vraiment, prend vraiment contre-pied de la BD d'origine. Toutefois, comme dans la BD, on a un queutard, qui ne porte pas son nom évidemment, il est interprété par Chris Evans, donc le Captain America qu'on connaît bien, mais ici complètement méconnaissable, qui remonte lui aussi le train, mais il est accompagné d'une bande de paumés afin de régler son compte aux salopards de conducteurs qui oppriment le petit peuple avec ses annonces incompréhensibles et ses sandwichs pas frais. Bon, parfois plus cru et cruel que la BD, on a des séquences d'amputation, on évoque le cannibalisme, la torture, tout ça, enfin le viol aussi. Le film, fort de séquences d'action très stylisées, propose donc un mélange assez intéressant des cultures occidentales et extrême-orientales, ce qui rafraîchit beaucoup l'esprit du film catastrophe à l'américaine. D'ailleurs, aucun personnage noir ne crève dans les 10 premières minutes, c'est remarquable.
Bravo.
Jouant d'ailleurs sur ce multiculturalisme, c'est une coproduction américano-franco-sud-coréenne et tournée en Autriche. Bong Joon-ho instaure la parité des sexes et des origines au sein de son casting. Il mêle acteurs anglo-saxons notables comme Ed Harris en concepteur mégalomane, Tilda Swinton en version salope BCBG de la Reine Blanche de Narnia, John Hurt en vieux salopard et manchot, et puis des acteurs coréens comme son fétiche Song Kang-ho, qui interprète un ingénieur junkie finalement héroïque dans une superbe séquence de sacrifice. Voilà, autre point fort du film, c'est justement le fait qu'il se passe dans un train. Le côté huis clos est habilement utilisé par les caméras et réalisateurs, notamment dans les séquences de action, mais aussi dans les séquences intimistes. Et puis les wagons qu'on découvre au fur et à mesure ont tous leurs particularités, et on a le wagon restaurant, on a le wagon, les wagons de queue qui sont très misérables avec une surpopulation, puis les wagons ultra sécurisés très modernes, le wagon potager, le wagon aquarium, le wagon lupanar, le wagon sauna, enfin bref, autant de décors qu'on prend plaisir à découvrir au fur et à mesure du voyage. Bref, le transpersonnage, c'est vraiment une très très bonne surprise. Enfin, je sais pas si Yacine tu l'as vu.
Moi j'adore ce film, et je pense que c'est même un hommage au cinéma, puisque chaque wagon quasiment c'est un genre cinématographique en soi. Il y a le wagon comédie musicale, il y a le wagon film d'action, il y a le wagon, enfin je sais plus, mais
oui,
y a tout un tas de séquences comme ça qui est une sorte de, voilà, de kaléidoscope cinématographique en fait.
Et justement, enfin, grâce à ce scénario complètement renouvelé, il donne un sens complètement différent au concept d'origine, mais il en respecte malgré tout les problématiques sociales et politiques. Et le film rajoute même un supplément d'âme en développant une intrigue autour de l'enlèvement d'enfants, qui sont vraiment le moteur du transpersonnage. Et ce sans doute afin d'ajouter un élément absent de la BD, c'est-à-dire l'espoir. Peut-être très américain. Le film résout d'ailleurs le dilemme du héros en proposant une fin alternative optimiste, celle d'une tabula rasa nécessaire pour fonder une nouvelle société.
Mais en parlant de conclusion optimiste, parce que là j'ai presque l'impression que tu as bien aimé une adaptation dont tu parles.
Ouais, pour une fois,
ça change.
Non, mais vraiment, c'est
parce que d'habitude, tu les démontes.